À vous. Donc, merci d'être là, même peu nombreux. Je suis vraiment désolée pour notre conférencier. Alors, normalement, il y a de la publicité qui a été faite. Donc, les étudiants sont là. C'est la dernière conférence du cycle concernant l'histoire des sciences dans l'Antiquité. Donc, c'est un cycle qu'on organise depuis quelques années avec le laboratoire Herma de l'Université de Poitiers. Et je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Monsieur Kay, qui va nous parler de Vitruve. En fait, c'était pas évident de trouver quelqu'un qui sache parler de ce sujet. Et vous êtes, je le sais, par mes amis de la communauté d'histoire des sciences, un grand spécialiste. Et bon, c'est la première fois qu'on organise une conférence sur ce personnage, si je puis dire, et donc c'est très 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 intéressant pour nous qu'elle ait lieu enfin ici à l'espace Mendès France, parce que elle est nécessaire. Donc le titre de votre conférence est Le continent Vitruve ou l'origine de la ville à l'âge humaniste et classique. Donc Monsieur Kay, je vais vous présenter. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez consacré une part importante de vos recherches à Vitruve et au vitruvianisme à la Renaissance et à l'âge classique. Vous avez publié Le savoir de Palladio chez Kinzig, puis Empire et décor, le vitruvianisme et la question de la technique à l'âge humaniste et classique chez Vrin en 1999. Vous avez proposé en collaboration avec François Chouet une nouvelle traduction, pardon, française du De Aedificatoria de Léon Battisti Alberti aux éditions du Seuil en 2004. Vous dirigez au CNRS le groupe de recherche internationale sur les savoirs artistiques et les traités d'art de la Renaissance aux Lumières. À travers la question de la technique, vous proposez une réflexion inédite sur la praxis qui a donné lieu à un ouvrage de philosophie morale, Morale et chaos, principe d'un agir sans fondement aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être parmi nous, monsieur. Bienvenue à Poitiers. À tout à l'heure.
Oui, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Donc, nous allons parler moins d'histoire ou de théorie des sciences que de l'articulation entre l'art, la question de la technique et l'approche scientifique du territoire et de la ville que symbolise bien Vitruve et en particulier l'usage que les hommes de la Renaissance et plus avant encore ont fait de ce texte. Je vais faire une présentation extrêmement simple. Il va être évidemment beaucoup question d'architecture. C'est vraiment le nœud de l'affaire. Une présentation extrêmement simple et je vais essayer de montrer dans quelle mesure l'architecture porte non seulement un projet technique, mais à travers ce projet technique, une certaine façon d'habiter le monde, d'habiter la ville, d'habiter le territoire et d'habiter le monde. Alors, je me sens tout de même un petit peu impertinent de parler d'architecture classique aujourd'hui, alors que nous sommes à côté d'un joyau de l'architecture médiévale, bon, et qui mérite aussi la plus grande admiration. Mais il me semble que ce qui s'est joué à partir de la Renaissance, à partir du XVe siècle, est quelque chose d'important à la fois pour l'histoire de notre civilisation, mais aussi aujourd'hui, où on parle beaucoup de développement durable, où on parle beaucoup d'une nouvelle approche de l'aménagement du territoire. Et il me semble que ce qui s'est mis en place à travers ce type d'architecture peut encore nous guider dans cette réflexion de nouveaux principes de la technique. Alors, la plupart des grandes villes européennes restent marquées par une architecture que l'on qualifie de classique, aisément reconnaissable par ses colonnes à chapiteaux, ses corniches, ses frontons, et par le style de ses ornements qui rappellent l'architecture antique. Cette architecture a marqué l'Europe pendant 4 siècles. J'insiste sur la longue durée de ce geste architectural, du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. A marqué l'Europe, mais a marqué aussi la naissance des États-Unis. Vous avez des choses admirables en ce qui concerne l'architecture néo-palladienne aux États-Unis en particulier. Les historiens d'art ont certes l'habitude de diviser ce mouvement en de multiples styles et en de multiples moments, de Brunelleschi ou Alberti, qui sont un peu les pionniers, jusqu'à l'urbanisme haussmannien. Mais en réalité, je vais prendre un autre parti, hein, et je suis plutôt sensible à la cohérence du geste, à l'unité des principes et des problématiques de cette architecture, hein, pendant ces quatre siècles, du 15e au 19e siècle. Et c'est cette longue durée que je vais essayer de ramasser en ce court moment que je consacre à cette question. Alors, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est que ce style d'architecture n'est pas simplement un décor, aussi élégant soit-il, mais constitue un véritable paradigme technique au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et plus généralement au service de l'utilité des hommes, cherchant à assurer aux hommes le bien-vivre et aux nations le prestige, voire la puissance. Je voudrais aussi souligner à cette occasion l'existence et l'importance d'un texte qui va profondément marquer ce type d'architecture. Il s'agit du De Architectura de Vitruve, ingénieur militaire de César et d'Auguste, qui a rédigé une véritable somme encyclopédique sur l'architecture antique et qui constitue le seul ouvrage que nous ayons gardé des anciens sur la question proprement architecturale. Texte qui a certainement eu, j'y reviendrai, beaucoup plus d'influence à l'époque moderne que de son temps. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la place de Vitruve dans la culture européenne de la Renaissance au XIXe siècle. Alors, pour aller au-delà du décor, je vais dans un premier temps vous présenter quelques édifices particulièrement emblématiques, particulièrement représentatifs de ce moment singulier de l'intelligence constructive des hommes. Et je vais commencer. Voilà. Je vais commencer par ce qu'on appelle le Tempio Malatestiano d'Alberti. C'est un édifice du milieu du XVe siècle, un peu plus tardif que les grands projets de Brunelleschi. Cette église de Rimini, dédiée à la famille des seigneurs de la ville, les Malatesta, d'où le nom du temple, est l'une des toutes premières expériences abouties de redécouverte des modes de conception et de réalisation de l'architecture à l'antique, l'architecture des Grecs et des Romains, qui a si fortement caractérisé la Renaissance, et en particulier la Renaissance italienne. J'ai dit édifier, il vaudrait mieux dire surédifier, parce qu'il s'agit en réalité d'un coffrage de pierre qui enserre et dissimule le corps de l'église médiévale. Le projet est inachevé, la partie supérieure de la façade donc, n'a pas été édifiée, et de même manque la coupole qu'Alberti avait prévue, avait dessinée, mais qui n'a jamais été construite. Alors, ce temple, ce tempio, est le fait d'un homme d'études, d'un humaniste, d'un intellectuel, dirait-on aujourd'hui, certainement la plus grande figure de l'humanisme du XVe siècle, Léon Battista Alberti, qui est aussi l'auteur d'ouvrages littéraires importants, et en particulier des deux traités d'art fondamentaux et inauguraux de la théorie de l'art dans l'Occident moderne, c'est-à-dire le De Pictura, le traité sur la peinture, et nous l'avons cité, le De Rea Edificatoria, l'art de bâtir. Alors, voici ce qu'a réalisé Bramante dans l'enceinte de l'église San Pietro in Montorio sur le Janicule à Rome dès le début du XVIe siècle. Bramante est un architecte très important de la Renaissance italienne qui a initié le projet de Saint-Pierre, qui a mis en place ce grand chantier qui dure plusieurs dizaines d'années. Et alors, même si, du point de vue de l'échelle, le Tempietto est évidemment l'antithèse de Saint-Pierre de Rome, mais c'est un petit bijou à la fois de virtuosité et de correction architecturale par rapport aux règles antiques, et qui donne une traduction à la fois concrète et nouvelle de la description par Vitruve du temple rond, dit temple monoptère, c'est-à-dire c'est un temple entièrement entouré de colonnades, dont un demi-siècle plus tard, Daniele Barbaro, dans son commentaire au Vitruve, donne la transcription graphique. Alors on voit bien l'influence du projet de Bramante sur cette transcription graphique, mais cette transcription graphique a pour but essentiellement de définir ce temple, ce type de temple tel que Vitruve le décrit dans son traité. Donc on voit bien la circulation entre le traité, les projets architecturaux et le commentaire au traité. Il y a toute une circulation qui marque déjà la constitution d'un savoir très institué. Alors ça, je pense que vous connaissez cet ouvrage, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, certainement l'édifice le plus emblématique du plus emblématique des architectes de la Renaissance. Il s'agit de la Rotonde de Palladio. C'est un édifice qui date des années 1566-1571 et qui est situé à quelques kilomètres de Vicence. Outre le caractère frappant de sa simplicité, du parallélisme de ses quatre frontons, de la beauté de son harmonie, la Rotonde illustre l'art incomparable de Palladio, qui réussit à créer un admirable contraste entre d'une part la discrétion et la mesure de l'édifice vu de l'extérieur et d'autre part l'amplitude des espaces intérieurs. Et en particulier, remarquez la coupole qui est extrêmement plate, extrêmement discrète, alors que dès qu'on rentre à l'intérieur de cet édifice, vous avez un effet de volume exceptionnel. Et je reviendrai sur ce jeu de la limite et du volume qui est quelque chose d'important dans la conception générale de ce type d'architecture. Toujours du même architecte, c'est sa dernière œuvre. C'est le Teatro Olimpico de Vicence. C'est son dernier projet que Palladio a construit en 1580, c'est-à-dire l'année de sa mort. Alors, il est considéré comme le premier théâtre couvert permanent de l'époque moderne. Mais ça, je crois que ce n'est pas le plus important. Il est en réalité bien plus que cela, puisqu'il constitue une sorte de vérification, d'expérimentation sur pièce de la description du théâtre romain que propose Vitruve au livre 5 de son traité. Et on voit déjà la rigueur, la richesse à la fois ornementale et la rigueur de la conception dans ce projet. Alors, nous allons faire un saut d'un siècle pour aborder quelque chose qui est aussi extrêmement connu, mais je pense que ce sont précisément ces édifices que nous avons l'habitude de voir qui méritent d'être questionnés. Ce sont effectivement les grands chefs-d'œuvre de ce type d'architecture. Nous le savons, mais encore faut-il aller jusqu'au bout de l'intelligence du projet que ces architectes ont engagé dans ce type d'édifice. Alors, tout le monde reconnaît ici la fameuse colonnade du Louvre réalisée par Claude Perrault à la fin des années 60, 1667-1670. Donc le frère de Charles Perrault. Ce projet est un puissant symbole de ce qu'on appelle la translation, c'est-à-dire le passage de témoins en matière d'art et d'architecture entre l'Italie de la Renaissance et la France du grand siècle. Cette colonnade qui aurait dû, dans le projet envisagé, n'être qu'un des côtés d'une vaste cour périptère qui aurait redoublé la cour carrée du Louvre. Ça, c'est le projet original qui n'a jamais été abouti. Donc il faut imaginer, c'est assez étonnant, il faut imaginer le redoublement et la clôture de cet espace qui aurait débordé Saint-Germain-l'Auxerrois et qui aurait comme ça pénétré jusqu'au Châtelet, qui aurait maîtrisé le Châtelet avec tous les enjeux symboliques que cela représente. Alors, nous en sommes restés à cet état-là. Le roi choisira une autre stratégie, à savoir le château de Versailles, qui vient tout de suite après. En insistant dans cette façade sur la colonnade, Claude Perrault, qui par ailleurs est le traducteur et l'illustrateur français du Vitruve, et on retrouve ce croisement entre le projet architectural et la réflexion sur le De Architectura, réfère clairement son projet à l'architecture grecque et romaine, où la colonnade est un élément structurant fondamental. à travers la colonnade du Louvre, Louis XIV manifeste clairement la dimension augustéenne de son règne, la translation impériale de la Rome antique à la France du grand siècle. Cela dit, il y a un détail qui ne vous a pas échappé, c'est le système de double colonne. Ce sont deux colonnes accouplées à chaque fois qui soutiennent l'architrave. Cette colonnade est composée donc pour des raisons constructives, pour des raisons de solidité, d'un système de double colonne, car jamais on n'avait vu d'aussi longue architrave portée par des colonnes, d'où le recours à ce système de double colonne qui, aux yeux de la critique du siècle suivant, apparaîtra lourde et maladroite. Et nous verrons tout à l'heure, lorsque nous examinerons la place de la Concorde, la place Louis XV, comment Gabriel résout ce problème de façon admirable. Hein. Alors, ce sont deux bâtiments qui sont distants de moins d'un kilomètre. Il y a un siècle de distance. Et on voit une maîtrise de la colonnade beaucoup plus accomplie dans les pavillons de Gabriel que dans la colonnade du Louvre. Mais nous reviendrons sur l'œuvre de Gabriel tout à l'heure. Alors, Vaux-le-Vicomte est certainement le plus bel exemple d'architecture castrale. Il est le résultat de la collaboration de Levaux, qui est aussi l'architecte d'opération de la colonnade du Louvre, avec Lebrun, le peintre décorateur, le célèbre peintre décorateur, et Lenôtre, l'inventeur, dit-on, du jardin à la française. Rassemblés ainsi pour la première fois par Fouquet, avant que Louis XIV ne les réunisse à nouveau pour Versailles. C'est la même équipe qui va faire Levaux et qui va faire Vaux et Versailles. Alors tout est réussi au château de Vaux, et en particulier la synthèse de l'architecture, du décor et du jardin, une alchimie que Louis XIV essayera de renouveler à une plus grande échelle à Versailles, mais avec moins de réussite. L'articulation du château et du jardin est tout particulièrement remarquable et illustre bien ce qui fait le génie du point de vue architectural du jardin à la française. Le génie de l'architecture antique et classique, c'est le jeu de sa double dimension. C'est une architecture qui travaille sur l'horizontale et sur la verticale, d'où l'importance de la colonnade, la colonne et son entablement. Et le but, le grand art de cette architecture, consiste à engendrer, à partir de ces deux dimensions fondamentales, la troisième dimension, en faisant vibrer les lignes, ce que le vitruvianisme appelle l'eurythmie et la doctrine classique, l'harmonie linéaire. Et dans le système du jardin à la française, on retrouve cette même idée. Le jardin à la française, c'est une façade et un espace extrêmement plat, dessiné de façon extrêmement discrète. Voilà. Donc ça joue véritablement sur les deux dimensions. Et à partir de ces deux dimensions, on essaye de créer un effet volumétrique qui est ici, bon, parce que le jardin est admirablement aménagé, est extrêmement frappant. On sent très fortement le volume à Vaux-le-Vicomte. Et c'est une certaine approche du territoire, de la conception, de la perception du territoire, que de progresser comme ça à partir des deux dimensions et de créer par un effet purement plastique la troisième dimension. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement la marque de ce type d'architecture. Alors, je présente Versailles parce que c'est la même équipe. On retrouve cette même idée, une façade extrêmement massive avec des jardins extrêmement horizontaux, une horizontalité qui accentue les bassins que l'on voit au premier plan. Alors, il est vrai que là, tout est un peu hors échelle par rapport à Vaux, et qu'on a l'impression que le volume ne se referme pas comme il peut se refermer à Vaux. L'eurythmie ne fait pas la sphère, comme disent certains théoriciens de l'architecture. Alors, je passe à autre chose qui est pourtant la même chose, l'autre face de ce qu'apporte ce type d'architecture et qui fait pleinement partie de son génie, à savoir sa capacité à aménager le territoire sur une grande échelle. Au demeurant, Versailles est aussi un grand projet d'aménagement de de toute la campagne environnante, hein, sur des milliers d'hectares. On trace des chemins, on trace des directions, on organise véritablement le territoire à partir du château. Donc là, nous avons ici Brouage, qui est une des places fortes conçues par Vauban à la fin du XVIIe siècle, hein, donc Brouage en Saintonge, tout près de Poitiers, qui illustre bien la capacité de l'architecture, non seulement à produire des édifices singuliers, des chefs-d'œuvre singularisés, comme le proposent les autres arts, mais aussi à configurer l'espace sur une grande échelle, à aménager des villes et plus encore à embellir les campagnes. Nous avons déjà vu comment Le Nôtre avait su allier à cette fin les techniques les plus lourdes de terrassement, d'hydrographie avec les sciences de l'optique et les arts du dessin, en particulier à Vaux. Avec Vauban, cette ambition prend la dimension d'une véritable politique du territoire au service non seulement de sa défense, mais aussi de l'optimisation de ses capacités productives. Alors on présente évidemment Vauban comme un grand soldat, comme celui qui a tracé cette fameuse barrière, ce corset de fer qui était censé protéger le pré carré. Mais en même temps, il n'y a pas seulement des objectifs militaires, mais il y a aussi des objectifs d'aménagement du territoire, d'hydrographie, hein, on le voit clairement à Brouage, de maîtrise du territoire en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre. Et on sait d'ailleurs l'intérêt que Vauban portait aux questions d'économie, comme on le sait. Alors Le Nôtre, aussi bien que Vauban, vérifie admirablement deux propositions fondamentales sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, deux propositions énoncées deux siècles auparavant par Alberti dans le De re aedificatoria. Alberti affirme en effet dans son traité qu'une maison est une petite ville et qu'une ville est une grande maison. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ce type d'architecture. C'est le principe d'urbanisme fondamental de l'âge humaniste et classique, celui qui explique pourquoi on se sent en général bien dans ce type de ville. Cette formule est très importante en ce qu'elle affirme l'identité de principe de l'architecture, quelle que soit son échelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, comme vous savez, les logiques constructives des équipements lourds sont très différents des projets architecturaux à petite échelle. On a une disjonction dans l'aménagement urbain, dans l'aménagement du territoire aujourd'hui à cause de ces questions d'échelle. La seconde proposition est encore plus ambitieuse puisqu'Alberti affirme que le but de l'architecture est non seulement de construire des édifices de toutes sortes, mais plus largement encore, d'embellir l'ensemble de la réalité, hein, les routes, les ponts, les ports, et tout ce qui relève d'une façon ou d'une autre de la main de l'homme. Ça, c'est la grande ambition d'Alberti. Une réalité dont le destin est d'être ainsi entièrement artificialisé, sans reste, mais il est vrai, selon la singulière conception de l'art, de la technique, que porte l'architecture. Et j'y reviendrai en conclusion de mon exposé. Alors, si je devais respecter une hiérarchie dans cette courte présentation de quelques édifices emblématiques, je placerais en tête la place de la Concorde d'Ange Gabriel, qui est aussi évidemment quelque chose d'extrêmement connu, un ouvrage extrêmement connu. Nous avons déjà vu avec quel talent et quelle grâce Gabriel avait réussi à régler la question de la colonnade que Perrault avait de son côté lourdement traitée au Louvre. Alors j'insisterai sur une deuxième qualité qui justifie amplement la réputation de cette place. Cette place immense est en réalité tenue par deux simples pavillons, les pavillons donc, qui certes ne manquent pas de majesté, mais qui, en réalité, à l'échelle de l'architecture palatiale de cette époque, reste discret et mesuré. On retrouve ici le même genre de contraste que chez Palladio ou encore à Vaux-le-Vicomte, et qui fait le génie, la beauté de cette architecture, à savoir le contraste entre des objets très délimités, très circonscrits, très dessinés, très fini, et la dilatation de l'espace. Ça, c'est très impressionnant quand on rentre sur la place de la Concorde, c'est une place immense, les pavillons ne sont pas très importants, et pourtant, tout est tenu. Et je crois que ça, c'est aussi un geste important, c'est comment tenir l'espace, et comment tenir l'espace avec des interventions finalement assez réduites, ne serait-ce que par les moyens techniques réduits de cette époque. Alors, puisque j'en suis à faire l'éloge des édifices à petite échelle, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter la folie de Bagatelle que le comte d'Artois a fait édifier à la fin du XVIIIe siècle à la suite d'un pari avec Marie-Antoinette. Et l'anecdote mérite d'être contée. Marie-Antoinette a mis au défi son beau-frère de concevoir un édifice en un jour et de le réaliser dans les plus brefs délais. Et effectivement, Bélanger, son architecte, l'a conçu en une nuit, l'a conçu et dessiné en une nuit, et l'a fait construire en deux mois. Cette anecdote témoigne de la maîtrise de l'art à laquelle l'architecture accède à la fin du XVIIIe siècle, aussi bien du point de vue de la conception que de la réalisation. Il n'est pas inintéressant non plus de noter que son architecte Bélanger fut aussi capable d'édifier la nouvelle couverture de la Bourse de commerce de Paris, ça au début du XIXe siècle, en utilisant une structure métallique d'avant-garde, démontrant ainsi que l'architecte classique, comme celui de la Renaissance, maîtrise à la fois la dimension ornementale et la dimension technique, avant que la scission entre le monde des architectes et celui des ingénieurs ne s'affirme définitivement. Et donc, il y a à la fois dans ce type d'architecture, effectivement, une maîtrise très forte des canons antiques, mais par des architectes capables de porter les nouvelles structures, les nouveaux éléments constructifs qui vont faire le 19e siècle. Et je vais terminer par encore deux illustrations. La salle des pas perdus du tribunal d'Aix-en-Provence, bâtiment moins connu que les autres. Il s'agit du péristyle intérieur du palais de justice d'Aix-en-Provence, dessiné par Ledoux, construit plus tard, mais dessiné à la fin du XVIIIe siècle par Ledoux, le fameux architecte des Salines d'Arquesnon. Il me semble important de ne pas oublier, dans ce tour d'horizon de l'architecture classique, ce qu'on appelle le néoclassicisme, trop souvent méprisé en raison, juge-t-on aujourd'hui, d'un effet péplum. Il est vrai que lorsqu'on édifie le Panthéon de Rome sur le Parthénon d'Athènes, et c'est un peu ce qui s'est passé à l'église Sainte-Geneviève de Soufflot, c'est-à-dire l'actuel Panthéon parisien, lorsqu'on surédifie comme ça les édifices emblématiques de l'Antiquité, on produit des effets guère heureux. Mais en réalité, le néoclassicisme a parfois réussi à atteindre des sommets de raffinement et de perfection. Le néoclassicisme n'est pas une maladie infantile de l'art classique qui aurait épuisé ses possibilités de renouvellement, mais l'aboutissement au contraire de 4 siècles d'architecture pour retrouver, dans le contexte d'une vie politique et sociale moderne, des édifices parfaitement conformes à l'idéal antique. Et il serait aisé de montrer cet exemple en témoigne, il serait aisé de montrer effectivement combien l'architecture néoclassique cherche à se rapprocher le plus exactement possible des principes de l'architecture antique, ne serait-ce que dans son respect de la colonnade, de l'architecture horizontale verticale qui est très nette ici. On voit bien donc usage de l'ordre dorique avec donc ce système de double colonne superposée et dans un parfait respect de l'horizontale et de la verticale, et qui est un signe fort, comme je l'ai dit, d'identification et de reconnaissance de l'architecture hellénique et hellénistique. Et il est vrai que cette architecture néoclassique s'est nourrie des découvertes archéologiques de Pompéi et d'Herculanum dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque Pompéi n'a été exhumé que très tardivement, et des remarquables travaux de ce qu'on appelait en ce temps les antiquaires, les archéologues, en particulier Caelus, le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris, ou de Winckelmann. Si bien qu'en quelque sorte, à travers l'architecture néoclassique, cet élan initié par Alberti près de 4 siècles auparavant, se poursuit avec une très forte unité des intérêts et des enjeux architecturaux. Et je vais terminer, c'est un peu une provocation, mais je vais m'en expliquer, sur le Paris du baron Haussmann, hein, qui me semble, le dernier grand projet vitruvien, mais aussi le plus abouti, hein, le plus vitruvien des grands projets d'urbanisme que l'Europe moderne ait connu. Le projet vitruvien par excellence de la modernité, parce qu'il illustre, à mon sens, la parfaite adaptation des 6 principes fondamentaux du dé architectural de Vitruve à un projet urbain complexe à grande échelle. Et ces 6 principes sont ce qu'on appelle l'ordonnance, c'est-à-dire la régularité des trames, hein, et on le voit bien ici sur la façade de cet immeuble, l'ordonnance, le système de mesure, hein, c'est-à-dire l'usage des proportions pour régler les rapports des diverses dimensions. Le 3e principe, c'est la disposition qui espace la ville et la rend plus visible grâce aux grandes percées faites dans le vieux tissu urbain. Le 4e, c'est la distribution qui rend la ville aussi plus fonctionnelle grâce en particulier aux moyens de circulation et d'évacuation que Haussmann a mis en place, hein, qui font de Paris de la fin du 19e siècle certainement la ville la plus moderne de tout l'urbanisme jusqu'à ce moment. Donc la distribution, qui est particulièrement réfléchie dans les projets haussmanniens, sans oublier le décor, c'est-à-dire l'ornement mis au service de l'embellissement de la ville, mais aussi de sa fonction symbolique, qui joue un grand rôle, évidemment, dans les projets haussmanniens. Sans oublier, enfin, le rythmie, c'est-à-dire l'effet esthétique d'ensemble que crée cette harmonie à la fois spatiale, linéaire et ornementale. Certes, la volonté de concevoir une ville selon les grands principes du vitruvianisme est déjà très lisible dans le Paris d'Ancien Régime, avec ses planifications en pas de doigt à partir des Invalides au XVIIe siècle ou à partir de l'école militaire de Gabriel, toujours de Gabriel, qui est le grand architecte de la fin du XVIIIe siècle, sous Louis XV. Mais ces projets ne sont en fait que l'ébauche du projet haussmannien, à mains égards beaucoup moins abouti que celui-ci, moins abouti parce que ce sont en général des projets en lisière urbaine qui se contentent de poser un monument, certes emblématique, comme les Invalides ou l'école militaire, à partir duquel on déploie un simple tracé régulateur qui reste à compléter par des édifices à venir, qui est encore virtuel. Alors Haussmann a œuvré à même le tissu urbain existant, ce qu'on lui a suffisamment reproché. Il a œuvré à même le tissu urbain pour vraiment reconfigurer la ville en promouvant une densification notable du bâti, en montrant donc une puissance de transformation morphogénétique beaucoup plus nette que les projets de l'Ancien Régime, qui relèvent plus, quant à eux, d'un urbanisme de l'effleurement. Le Paris haussmannien est pour moi le champ du cygne du vitruvianisme et du classicisme, à la fois un certain aboutissement en matière d'urbanisme, mais aussi la dernière grande opération respectueuse des principes antiques de la conception de l'espace. Alors, je voudrais faire quelques remarques sur cette présentation. D'abord, justifier quelques manques. Comme vous avez pu le constater, j'ai omis toute l'architecture baroque, qui joue pourtant un rôle important dans cette époque. Mais je crois, comme les théoriciens de cette période, je crois que le baroque raconte une autre histoire que celle que j'ai essayé de tracer extrêmement rapidement. Propose une autre histoire, une autre conception, non seulement de l'espace, mais aussi de ce que doit être la construction. Avec le baroque, on est ailleurs, et on est en droit de s'étonner que les XVIIe et XVIIIe siècles aient pu ainsi produire de façon concomitante deux tectoniques. Je veux dire par là deux façons de produire artificiellement les conditions même d'émergence du réel aussi différentes que le baroque ou que le classique. Et donc, il faudrait, je ne suis pas le mieux à même pour le faire, mais il faudrait que quelqu'un vienne ici pour expliquer quel a été l'imaginaire baroque de l'espace et de l'aménagement du territoire, en expliquant la différence radicale par rapport au modèle que j'essaye de décrire avec vous. Alors, deuxième limite de ma présentation, l'ensemble des édifices et des opérations qui ont retenu mon attention sont soit italiens, soit français. Et à ce prix, il y a bien des ouvrages importants que j'ai ainsi passés sous silence. Je crois néanmoins qu'il existe en matière d'architecture une sorte de privilège de ces deux cultures et que le dialogue entre la France et l'Italie en cette matière a été d'une richesse et d'une fécondité incomparables, permettant à cet art d'arriver très vite à un état de raffinement achevé, d'où mon parti pris que je suis sûr vous me pardonnerez. Je voudrais aussi noter que nous avons parcouru plus de 4 siècles d'Alberti à Haussmann, et pourtant on perçoit sans peine une forte identité du début jusqu'à la fin, une convergence entre ces divers types de bâtiments provenant de divers siècles. Il est clair que nous sommes dans un même projet, dans une même conception et de l'espace et de la beauté comme ornement. J'évoquais tout à l'heure le dialogue entre les nations et les cultures. Nous constatons maintenant le dialogue entre les siècles. L'architecture classique, l'architecture à l'antique, a assurément un très fort pouvoir de nouage de la culture et de la civilisation. Et c'est pourquoi on a peine à imaginer notre histoire, abstraction faite du décor que ce type d'architecture lui a donné. De fait, nous avons évoqué à plusieurs reprises un certain nombre de points qui traversent le temps et qui permettent d'identifier fortement ce type d'architecture. Il y a 4 points forts de convergence que nous avons croisés en chemin et qui justifient cette identité du projet architectural et de son imaginaire sur 4 siècles. Le premier point, c'est le rapport à la Rome antique. Le deuxième point, c'est l'importance, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, l'importance du De Architectura de Vitruve comme texte de référence pour ces architectes. Le troisième point, c'est l'affinité entre art et technique que portent ces projets. Et le quatrième point, c'est la dimension structurante, le rôle fondamental que joue l'ornement dans ce type d'architecture et un certain type d'ornement, un certain mode de conception et de réglage de l'ornemental. Alors, en ce qui concerne le rapport à la Rome antique, il faut s'imaginer quand la papauté quitte Avignon et revient à Rome à la fin du XIVe siècle, il faut s'imaginer que Rome est une ville qui ne dépasse guère 20 000 habitants. C'est tout petit, Rome. Tout petit. Une ville dont la plupart des ruines que nous connaissons aujourd'hui restent encore enfouies et ignorées. Le retour de la papauté à Rome s'accompagne d'un intérêt de plus en plus accru pour les fouilles archéologiques. Nous assistons à la naissance des antiquaires, et parmi eux, le plus célèbre étant Alberti, qui, avant de se faire connaître par sa théorie et par ses projets d'architecture, fut d'abord considéré comme l'un des plus grands connaisseurs de ruines romaines. Il faut prendre la mesure de ce que représente cette naissance de l'archéologie au Quattrocento. C'est le début de tout, en quelque sorte. Nous l'avons dit, la Rome médiévale est une ville qui a perdu tout son lustre. Or, à mesure qu'Alberti et d'autres exhument les ruines antiques, ils découvrent sur leurs pieds l'existence d'une ville immense, incomparablement plus grande que la Rome de leur temps, une ville que les historiens évaluent aujourd'hui à 1 million d'habitants, donc de 20 000 à 1 million, vous voyez l'effet que cela représente. Donc, ces archéologues découvrent des ruines qui marquent l'importance, l'emprise de la ville antique incomparable par rapport à sa situation existante et qui illustre la puissance de cette cité et qui, par là même, traduit, vérifie l'étymologie grecque de Rome, Romé, c'est-à-dire la puissance en grec. Donc, faire de l'archéologie à Rome, au Quattrocento, c'est moins cultiver le passé que rechercher les conditions qui fondent la puissance de la civilisation. C'est ça l'idée des antiquaires. C'est fouiller est une recherche pour l'édification de l'avenir tout autant que pour la connaissance du passé. Les vestiges de Rome sont une question politique avant même que d'être archéologique. Les sociétés contemporaines cherchent la puissance dans l'énergie, la production, l'organisation économique. L'humanisme italien du Quattrocento, l'humanisme romain du Quattrocento, espérait la trouver tout simplement dans les ruines de Rome. Comment construire une ville d'un million d'habitants. Voilà ce que la recherche archéologique se pose comme question. Vous voyez, on a une question extrêmement moderne. Ce n'est pas du tout une question de nostalgie des choses passées. C'est comment retrouver le secret, ou plus exactement, les conditions de construction d'un grand projet politique tel que Rome a pu le mettre en place. Donc c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la quête de restauration de ce qu'il faut d'abord appeler l'architecture à l'antique. Et il est clair que du Tempio Malatestiano au Paris du baron Haussmann, en passant par le Louvre ou par Versailles, au-delà même des formes antiques qu'il cherche à retrouver, les architectes et leurs commanditaires visent essentiellement à s'approprier le pouvoir de la Rome antique et son secret, les conditions de sa puissance. Alors, l'importance du De Architectura ad Vitruve est l'exemple le plus net de cette influence antique sur ce type d'architecture. J'ai été amené à citer à plusieurs reprises le nom de Vitruve. Plusieurs des architectes dont j'ai présenté les œuvres sont non seulement de remarquables praticiens, mais plus encore des grands connaisseurs de Vitruve. Alberti, dont le traité est une sorte de réécriture du De Architectura, mais aussi Claude Perrault, qui offre en 1673 une nouvelle traduction française, soigneusement commentée et illustrée du traité de Vitruve, qui servira de référence pour le vitruvianisme des siècles suivants. Sans oublier Vauban, qui, au cours de ses visites aux frontières, transportait dans son carrosse une petite bibliothèque portative de 20 ouvrages qui comprenaient évidemment le De Architectura ad Vitruve, ainsi qu'un résumé des œuvres de Tacite. Donc on voit bien l'articulation entre la question politique, le pouvoir de Rome, et l'édification, la construction de la ville et, pour Vauban, du territoire. Alors, sans oublier Palladio, qui est un grand vitruvien, dont les liens avec Daniele Barbaro, qui est le grand commentateur, nous reviendrons sur ces grands auteurs, qui est le commentateur humaniste de Vitruve, dont les liens sont extrêmement étroits. Vitruve, c'est à la fois la ressource doctrinale de l'architecture classique, c'est un réservoir de formes types, de règles innombrables de conception, et en particulier des fameuses règles de proportion qui permettent d'unifier harmonieusement ce tout complexe composé de parties qu'est un édifice. Certes, on ne peut pas dire que l'ensemble de ce qu'on appelle architecture classique suit scrupuleusement les préceptes vitruviens, et on pourrait montrer un très grand nombre de détails qui sont véritablement propres à ce type d'architecture, mais tous les édifices, ou presque, s'efforce de satisfaire aux principes fondamentaux, aussi bien du point de vue des formes que du point de vue de l'ornement, tels que Vitruve les a fixés, et en particulier les 6 principes que j'ai cités en évoquant l'urbanisme haussmannien. Alors, il existe en réalité 2 Vitruves qui ne sont pas différents, mais qui se trouvent dans une position différente. Il y a d'abord le Vitruve antique, celui dont les historiens et les philologues actuels essaye non sans peine de restituer le texte et le parcours. Et essaye aussi de mieux comprendre le rôle dans la culture et dans l'architecture à la fin de la République romaine. Le Vitruve historique, en quelque sorte. Et puis, il y a le Vitruve renaissant et classique, celui que les architectes et les philologues de l'époque ont reconstruit et magnifié. Et ce sont 2 personnages, en réalité, assez différents. Pour ceux qui s'intéressent à l'Antiquité, le Vitruve historique apparaît comme un auteur mineur, secondaire, comme un simple compilateur de toute une littérature hellénique et hellénistique qu'il cite abondamment dans son traité. Pire encore, aux yeux des historiens de l'architecture antique, Vitruve arrive soit trop tard, soit trop tôt. Trop tard par rapport au grand traité grec aujourd'hui perdu et à la grande architecture hellénistique. Trop tôt par rapport à la révolution architecturale qu'a promue l'Empire d'Auguste et sur laquelle le De Architectura n'a en réalité que très peu influé. Mais la Renaissance et le classicisme n'éprouvent à l'égard de Vitruve absolument aucune de ces réticences propres à l'historiographie contemporaine. Bien au contraire, car pour les hommes de la Renaissance, le Vitruve est le seul traité d'architecture que les anciens leur aient transmis. Et en tant que tel, c'est une référence absolue, sans concurrence, qui synthétise l'ensemble de la doctrine architecturale antique, aussi bien grecque que romaine. Et c'est pourquoi ce traité, qui au regard de la production antique apparaît mineur, est devenu une sorte de bible de l'architecture, non seulement en tant que tel, mais aussi par l'abondante littérature secondaire de toute forme à laquelle le De Architectura a donné lieu, des commentaires, des traités des ordres, des lexiques, des dictionnaires, des encyclopédies, des recueils de ce qu'on appelle des recueils typomorphologiques, hein, c'est-à-dire des formes types l'architecture antique, des recueils de droits de la construction aussi, puisque Vitruve parle de ces questions. Littérature qui a accompagné, nourri et influencé en profondeur non seulement l'architecture et l'urbanisme pendant 4 siècles, mais l'ensemble de la culture, aussi bien politique et juridique que productive et technique. Par exemple, le droit des travaux publics, le droit public, et en particulier le droit des travaux publics tel qu'il est en vigueur aujourd'hui, s'est mis en place sur le chantier de Versailles. Les grands principes d'adjudication, les grands principes du droit des travaux publics s'est mis en place pour précisément organiser un chantier immense à ce moment-là. Cette littérature secondaire est infinie et continue pendant 4 siècles. Elle forme ce que j'ai appelé un continent, le continent Vitruve. Je me contenterai aujourd'hui de présenter les textes majeurs, ceux qui sont les plus étroitement liés au traité original de Vitruve. Mais auparavant, il n'est pas inutile de présenter ce traité matriciel à l'origine d'une culture originale qui a si profondément marqué l'époque moderne. Il faut considérer le De Architectura moins comme un traité d'architecture que comme une encyclopédie technique, peut-être même la seule encyclopédie technique du monde antique. C'est en raison précisément de sa forme encyclopédique qu'il a pu jouer ce rôle matriciel pour la culture et favoriser à l'époque moderne sa déclinaison et sa dissémination en d'innombrables textes spécialisés. De fait, et c'est à mes yeux ce qui fait la force de ce traité, Vitruve a une conception de l'architecture bien plus vaste et ambitieuse que ce que nous appelons architecture. Et cette ambition explique pourquoi l'architecture tient une si grande place dans la culture humaniste et classique. Pour nous, faire de l'architecture, c'est tout simplement construire des édifices. Pour Vitruve, architecturer est une méthode générale de conception du projet qui vise à réaliser tout objet artificiel composé d'un assemblage de parties distinctes. C'est pourquoi le traité ne se contente pas de décrire différents types d'édifices, mais explique aussi comment construire, par exemple, des cadrans solaires, hein, selon les principes de ce qu'on appelle la gnomonique, ou comment construire un certain nombre de machines qui vont de la catapulte jusqu'à l'orgue hydraulique de Ctesibius, en passant par les travaux hydrauliques. C'est aussi la raison pour laquelle Vitruve consacre 3 chapitres en tête de son traité pour mettre sur pied une méthode générale de conception qui s'applique indifféremment à tous ces types d'objets et qui joue un grand rôle dans l'émergence de la technique moderne. À la suite de ces 3 premiers chapitres de méthode, Vitruve consacre le reste du livre 1 au principe d'urbanisme. Au livre 2, il évoque les divers matériaux qu'il revient aux constructeurs d'employer. Les livres 3 et 4 sont consacrés à l'architecture sacrée, c'est-à-dire aux temples, qui sont effectivement les livres centraux de l'édification, puisque c'est dans ce cadre qu'est présentée la colonne, avec tous ses ornements canoniques. Et c'est aussi dans ce cadre qu'est justifiée la théorie des proportions, qui servent en quelque sorte de marque de fabrique à ce type d'architecture. Le livre 5 est consacré aux édifices publics, basiliques, théâtres, etc. Le livre 6 à l'architecture domestique, aussi bien la campagne qu'en ville. Le livre 7 est le livre des ornements décoratifs et des finitions, en particulier des enduits et des revêtements pour les murs et les sols. Avec le livre 7 prend fin la édificatio proprement dite, hein, l'architecture pour nous, hein, au sens étroit du terme. Le livre 8 est consacré aux travaux d'hydraulique, et il va jouer un grand rôle dans toute cette période. Le livre neuf à la gnomonique, c'est-à-dire à la conception des cadrans solaires. Et enfin, le livre 10, livre important, le livre des mécaniques, qui applique donc la méthode architecturale à un grand nombre de machines, qui vont des machines de guerre à celles de chantier, en passant, nous l'avons vu, par des instruments de musique ou des instruments de mesure. C'est dire la richesse du monde artificiel et technique que contient cet ouvrage, qui explique donc la fascination que les hommes de l'époque moderne ont pu éprouver à son endroit. Alors nous l'avons dit, je vais présenter quelques ouvrages de référence pour bien montrer l'influence de ce texte à travers ces quatre siècles. Alors nous l'avons dit, Alberti est le père de la théorie de l'art et le De Re Adificatoria joue effectivement un grand rôle dans l'établissement de cette théorie. Dans le De Pictura, il est le premier à formuler la théorie de la perspective en peinture. Et dans le De Re Adificatoria, il est le premier à formuler de façon extrêmement claire et opératoire la théorie des proportions et la théorie des ordres, qui sont donc à l'architecture humaniste et classique ce que la perspective est à la peinture, vraiment l'opérateur fondamental à partir duquel tout devient possible, à partir duquel l'espace se crée. On me dira qu'il s'agit d'un nouveau traité parfaitement original par rapport au De Architectura de Vitruve, un traité qui certes fait souvent référence à Vitruve, mais toujours avec une certaine distance. Quel que soit l'écart entre les deux textes, il est sûr que le traité d'Alberti a préparé le retour du vitruvianisme ou de Vitruve au XVIe siècle. Le De Architectura de Vitruve au XVe siècle est connu, de plus en plus recopié et répandu, mais il reste un texte extrêmement difficile à lire en raison d'une langue très technique, souvent d'origine grecque, qui a suscité beaucoup d'erreurs de la part des copistes, en raison aussi de la disparition des figures que Vitruve mentionne dans son texte, en raison enfin des lacunes et des erreurs nombreuses qui affectent les chiffres et donc l'exactitude des dimensions et des proportions que formule le traité. Donc c'est un traité au XVe siècle qui est très difficilement lisible. Sur ce dernier point, Alberti, voyant les dégâts qu'engendrent les problèmes de transcription numérique, recommandera à ses copistes, aux copistes de son propre traité, de toujours écrire les nombres, non pas en chiffres, mais en toutes lettres. Alberti, au livre 6 de son traité, déplorera l'état du Vitruve, dont il dit combien il est corrompu et mutilé, et dont il eût aimé savoir davantage. Eh bien, il faudra attendre 60 ans, 1511 exactement, pour pouvoir bénéficier d'une édition du Vitruve qui le rende compréhensible par la communauté des humanistes. C'est l'édition de Fra Giovanni Giocondo, faite comme il est indiqué dans le titre même de son édition, Utiam legi et intelligi possit, pour qu'il puisse être lu et compris. Alors déjà, lu, pas simplement compris, pour qu'on puisse déjà le lire. Et effectivement, c'est l'une des plus belles réussites, cette édition, donc assez précoce finalement, cette édition du Vitruve de 1511 est l'une des plus belles réussites de la philologie humaniste. C'est l'un des textes antiques les mieux édités. Nombre des leçons retenues par Fra Giocondo sont encore considérées comme valides par les spécialistes contemporains. À quoi il faut ajouter tout un travail d'illustration de l'ouvrage, compensant la disparition des illustrations originales. De sorte qu'à partir de cette date, le traité de Vitruve devient un texte de référence qui va fortement influencer l'architecture du XVIe siècle et après. Alors, Fra Giocondo est non seulement une grande figure de l'humanisme, c'est aussi un ingénieur qui symbolise véritablement une certaine modernité de la technique. Et je prends pour exemple le Pont Neuf, c'est le constructeur, l'ingénieur du Pont Neuf de Paris du XVIe siècle, c'est-à-dire le premier pont à tablier parfaitement horizontal. Premier pont de pierre à tablier parfaitement horizontal. Et ça signifie beaucoup de choses dans la conception de la circulation dans une ville que d'être capable d'établir un pont parfaitement droit, sans bombement, sans dos d'âne. Voilà ce personnage, hein, à la fois extrêmement rigoureux du point de vue de la pratique et très grand philologue, et qui a réussi cet exploit philologique d'établir un texte qu'Alberti, un demi-siècle auparavant, jugeait, lui, totalement perdu et incompréhensible. Alors, un demi-siècle plus tard, est édité, toujours à Venise, par Daniele Barbaro, un commentaire au De Architectura, important à la fois par son érudition et par sa pertinence philosophique, qui donne au traité toute sa dimension intellectuelle et fait du Vitruve un auteur incontournable dans la constitution de la rationalité moderne occidentale. Un commentaire qui sera édité en italien en 1556 et dans une forme remaniée et complétée en latin et à nouveau en italien en 1567. L'un des buts de ce commentaire est de faire ressurgir ce que Barbaro appelle la veritas graeca du Vitruve. Alberti cherchait à romaniser l'architecture, Barbaro essaye d'héléniser le savoir scientifique de son temps. Et de fait, par son commentaire, Barbaro intègre véritablement le Vitruve dans le mouvement de redécouverte par le XVIe siècle des grands savants grecs Euclide, Archimède, Pappus. Et on sait l'influence de tout le savoir hellénique et hellénistique dans le Vitruve, un savoir dont on avait du mal à percevoir les enjeux au XVe siècle, mais qui, à partir du XVIe, à partir non seulement de Barbaro, mais de tout un groupe à Venise autour de ce qu'on a appelé l'arsenal autour de Vettor Fausto, ont redécouvert toute l'importance du savoir géométrique, mécanique, des anciens grecs, et Barbaro fait la synthèse et commande donc Vitruve par le savoir grec, hein, restaure Vitruve à son origine grecque, et c'est en cela un commentaire véritablement fondamental. Rappelons que Barbaro est par ailleurs le mentor de Palladio, qui l'accompagne à Rome en 1554 pour sa campagne de relevés archéologiques. Palladio qui grave les planches de l'édition de 1556. Et de fait, hein, Palladio doit à Barbaro un certain nombre de chantiers importants, et en particulier la fameuse villa Barbaro à Mazères, une des plus grandes réussites probablement de Palladio, avec des deux côtés les cadrans solaires. Hein, on retrouve la gnomonique, hein, l'importance du savoir scientifique dans cet édifice. Mais le traité le plus célèbre de l'histoire de l'architecture humaniste et classique est celui-ci. C'est la règle des cinq ordres d'architecture de Jacopo Barozzi, dit Le Vignol, l'architecte de l'intérieur du Gesù à Rome et de la Villa Farnèse à Caprarola, villa pentagonale. Ce manuel, qui date de 1563, qui est le quasi-contemporain du Barbaro, est très différent. Le Barbaro est un commentaire savant, ligne à ligne, du Vitruve. Vignol se contente, en quelques planches gravées, de fixer le système des ordres en donnant à chacun d'eux toutes les proportions de la base à l'entablement au moyen de planches accompagnées de courts commentaires. Ici, l'ordre ionique, la base et l'entablement dans cette autre illustration. Alors, ce type d'ouvrage va faire beaucoup plus pour la diffusion de l'architecture à l'antique, c'est-à-dire de l'architecture verticale horizontale, que tous les autres types de traités. C'est le traité d'architecture le plus édité et le plus traduit jusqu'au XIXe siècle. Là, c'est une édition française, c'est l'édition Le Muet de 1631 que j'ai choisi. Et donc, vous voyez, à partir du VIIe siècle, c'est un texte qui va très fortement se diffuser. Il illustre bien le processus de réduction de l'art en règles simples qui va se généraliser au XVIIe siècle pour l'architecture comme pour un grand nombre d'autres arts. Alors, la translation entre l'Italie et la France, entre le XVIe et le XVIIe siècle, se marque aussi sur le plan de la littérature théorique. Le Vitruve dominant du XVIIe siècle n'est plus celui de Barbaro, mais celui de Claude Perrault, l'architecte de la colonnade du Louvre, qui se présente à la fois comme une traduction et comme un commentaire, sous la forme d'un appareil de notes nombreuses et copieuses, à quoi s'ajoute une illustration particulièrement riche, précise et raffinée, qui ne compte pas peu dans le succès international de cet ouvrage. Donc voilà le frontispice. On reconnaît les ouvrages de Claude Perrault, en particulier donc la colonnade, et puis ici la porte Saint-Antoine qu'il concevra sans pouvoir l'édifier. Aussi érudit soit-il sur la culture technique des anciens, ce traité participe pleinement à la recherche d'une simplification méthodique qui caractérise bien son époque. Perrault propose en particulier un système de proportions pour les colonnes beaucoup plus simple et cohérent que les systèmes antérieurs, comme en témoigne sa conception de la symétrie dite à la française, c'est-à-dire de la proportion purement paritaire, hein, 1 sur 1, qui conçoit la symétrie comme la simple répétition à l'identique de la même forme d'un côté et de l'autre d'un axe. Alors, le titre de l'ouvrage suivant illustre suffisamment la présence de Vitruve dans la culture classique, puisqu'il s'appelle tout simplement Vitruvius Britannicus. Donc, c'est le Vitruve britannique de l'architecte britannique Colin Campbell. C'est un ouvrage de 1725. Et ceci pour montrer que l'histoire que je vous raconte n'est pas simplement une histoire franco-italienne, hein, au contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais revêt une véritable dimension internationale. Cet ouvrage est quasi exclusivement composé de plans d'édifices de toutes sortes, des plans qui vont jouer un rôle important dans la diffusion du néo-palladianisme, ce grand mouvement international d'architecture dont l'Angleterre va être le cœur et qui, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, va diffuser dans toute l'Europe et aux États-Unis des formes simples et élégantes d'architecture empruntées aux villas et aux églises du Palladio. Alors là, je vous présente la coupe de Merworth Castle dans le Kent, qui est un édifice construit par Colin Campbell et qui, comme vous le voyez, est tout de même très proche de la rotonda de Vicence. Donc, je vous montre ici le plan et la coupe. Alors, à côté de ces recueils de plans simples et largement diffusés, la recherche érudite sur le Vitruve ne désarme pas. Giovanni Polanyi, mathématicien et physicien italien du XVIIIe siècle, spécialiste d'hydraulique, qui travailla avec l'architecte Van Vitelli au renforcement du dôme de Saint-Pierre de Rome, propose ainsi toute une série de recherches, à la fois archéologiques, littéraires et techniques, sur le Vitruve, recherche d'une très grande précision et d'une très grande érudition qu'il rassemble sous le titre latin d'Exercitationes Vitruvianae, d'exercice vitruvien, en 3 tomes. Et ça, nous sommes à peu près à la moitié du XVIIIe siècle. Ce livre, qui est une sorte de récapitulatif de toute l'érudition de son temps sur le vitruvianisme, marque clairement les liens étroits que la théorie architecturale, surtout en Italie, n'a cessé d'entretenir avec les mathématiques et les sciences expérimentales, encore en plein milieu du XVIIIe siècle. Et de fait, cette filière qui lie à travers le vitruvianisme, érudition, humanisme, architecture et sciences de l'ingénieur, va connaître en particulier à Venise, d'où provient Polanyi, un prolongement jusqu'au début du XIXe siècle, avec le commentaire du Vitruve que propose Simone Statico, et ça c'est un texte de 1825-1830, Statico qui a le même profil que Polanyi, ce qui est médecin, physicien, professeur de physique à l'université de Padoue, commentateur du Vitruve, mais aussi spécialiste d'hydraulique pour la plaine du Pô, comme Polanyi, ou comme l'était 3 siècles auparavant Fra Giocondo. Il faut aussi citer ce qui constitue la Bible du néoclassicisme, le dictionnaire, ou plus exactement l'encyclopédie méthodique d'architecture de Quatremer de Quincy, en 3 tomes, qui s'étale de 1788 à 1825 et qui accompagne très fortement l'éclosion de l'école néoclassique. Quatremer de Quincy est un ami de David. C'est le protecteur de l'architecte et sculpteur Canova, qui est une grande figure de ce style néoclassique. Et c'est Quatremer de Quincy qui obtiendra un certain nombre de commandes à Canova auprès de l'empereur. Et Quatremer de Quincy, qui donne une armature théorique extrêmement solide et profonde au néoclassicisme. Il a joué un rôle très important dans la politique des arts de la Restauration jusqu'à sa mort en 1849, en concentrant entre ses mains les 3 clés du pouvoir en matière de beaux-arts à cette époque. Il était à la fois secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, directeur de l'École des beaux-arts, et il présidait le concours de l'Académie de France à Rome. Et donc, lorsqu'on tient au XIXe siècle, ces trois fonctions, on pilote toute la politique des beaux-arts en France à partir de ces trois fonctions. Et c'est le seul à les avoir concentrées. Ce traité se présente sous la forme d'une encyclopédie méthodique, l'ai-je dit, encyclopédique en particulier parce qu'à travers ces quelques 2000 articles, elle fait la synthèse des divers courants de la doctrine architecturale depuis la Renaissance, et en particulier la synthèse des diverses interprétations du Vitruve que Quatremer de Quincy cite et traduit à de très nombreuses reprises dans ses articles. Méthodique parce qu'elle organise ses notices qui au départ se présentent sous la forme alphabétique, comme la grande encyclopédie de Diderot d'Alembert, en distinguant 5 catégories de notions, ce qu'il appelle la pratique ouvrière, la pratique savante, la théorie historique, la théorie didactique et la théorie métaphysique. Ce sont 5 classes à partir desquelles Quatremer de Quincy range tout le vocabulaire architectural, attribue, distribue tout le vocabulaire architectural selon une dialectique de la théorie et de la pratique, sous une forme, on le voit, assez sophistiquée, qui rend ce dictionnaire aussi opérationnel et efficace qu'un traité. Et je vais terminer alors sur un Vitruve qui me tient particulièrement à cœur. C'est le Vitruve d'Auguste Choisy. On fait un bond d'un siècle. C'est la dernière traduction et le dernier commentaire du Vitruve fait par un professionnel de la construction. Nous sommes en 1909. Donc c'est dire la longue durée de ce traité. Choisy est non seulement un historien important de la construction, mais il est aussi un ingénieur, c'est un expon, à qui nous devons, qui a travaillé sur l'aménagement de l'Algérie, qui a travaillé au Sahara, et à qui nous devons l'utilisation, l'invention de la perspective axonométrique plafonnante, dont je vous montre un exemple utilisé pour le Vitruve. Système de représentation où une seule image mouvementée, comme le dit Choisy, mouvementée, animée, comme l'édifice lui-même, tient lieu de figurations abstraites, fractionnées par plan, coupe et élévation. Le lecteur a sous les yeux à la fois le plan, l'extérieur de l'édifice, sa coupe et ses dispositions intérieures. Son interprétation, l'interprétation de Vitruve est importante et inédite, en ce sens qu'il le lit dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui le rationalisme constructif, c'est-à-dire l'architecture comme mise en valeur des formes structurales et de leur dynamisme. C'est ça, c'est une révolution dans la lecture de Vitruve. C'est une lecture tout à fait inédite, une conception, le rationalisme constructif, qui anime encore aujourd'hui parmi les plus grands architectes, Norman Foster, Renzo Piano ou Santiago Calatrava, qui tous connaissent bien Choisy et qui connaissent bien ces modes de représentation de l'histoire de l'architecture et le Vitruve en particulier. En tant que tel, Choisy démontre clairement, en particulier grâce au nouveau type de représentation architecturale qu'il utilise, la polysémie et la modernité de ce texte vieux de 20 siècles, qui est le De Architectura. Mais cette modernité de l'architecture est une autre histoire que je n'aborderai pas aujourd'hui. Alors, si vous me laissez encore 5 ou 10 5 minutes, oui, 5 minutes. Oui, oui. J'aimerais conclure en soulignant 2 points forts qui émergent de ces édifices et de ces traités. Le premier point, c'est le lien étroit qu'entretiennent art et technique. Et l'autre point, c'est l'importance de la dimension ornementale de l'art, telle que l'illustre en particulier le système de la colonne. Il peut sembler que ces 2 points soient contradictoires l'un par rapport à l'autre et que l'ornemental n'a rien à voir avec le technique. J'essaierai de montrer en quelques instants le contraire. Alors, je vais commencer par l'ornemental. Le maître mot de cette architecture, c'est ce que Vitruve appelle l'eurythmie, Alberti la concinita, c'est Quatremer de Quincy l'harmonie linéaire. Donc ce jeu que j'ai essayé de montrer entre l'horizontal, le vertical, entre ces lignes qui vibrent et qui créent de l'espace. L'architecture humaniste et classique met ainsi en place ce qu'on appelle une modénature, c'est-à-dire les proportions et la disposition de l'ensemble des éléments ornementaux que constituent les moulures et les profils des moulures du système de la colonne et de son entablement. Une modénature qui, en réalité, se propage à l'ensemble de l'édifice, qui ne concerne pas simplement les portiques et les colonnades, à l'ensemble de l'édifice et à sa décoration intérieure. L'édifice classique est en quelque sorte semblable au souverain que décrit Kantorowicz dans son grand livre « Les deux corps du roi ». Souverain doté d'un corps transitoire et mortel, celui de son humanité individuelle, mais doté aussi du corps immortel de l'institution qu'il incarne et qui lui est un corps éternel et immortel. L'édifice lui aussi se dédouble entre sa construction, sa structura, dit Alberti, qui est un corps fragile, toujours susceptible de se dégrader, un corps lourd, et en particulier dans ce type d'architecture, hein, où la construction est toujours surdimensionnée par rapport à sa fonction portante. Hein, c'est toujours une architecture assez massive, hein, dans l'ensemble. Et donc, entre ce corps lourd et son harmonie linéaire, ses lignes, ses linéamenta, dit Alberti, qui font vibrer la construction, qui l'allègent l'espace, produisant cette beauté qui, selon Alberti, est encore le meilleur garant contre les destructions du temps. Et c'est précisément cette harmonie qui fait de l'édifice un véritable instrument technique grâce auquel l'homme aménage sa place dans le monde et y instaure une certaine maîtrise. En ce qui concerne donc ce rapport privilégié entre architecture et technique, il faut d'abord rappeler que la construction, sous sa forme civile, militaire, voire navale, est de loin la première industrie d'Ancien Régime, par l'importance à la fois des investissements et de la main-d'œuvre employée, et que le savoir architectural contribue très fortement à rationaliser ce secteur, à organiser le chantier en même temps qu'il conçoit l'édifice. D'une façon plus générale, les schémas architecturaux que nous avons croisés à plusieurs reprises, ordonnances, dispositions, systèmes de mesure, rythmie, convenances, distribution ou économie, mettent en place un paradigme véritablement efficient de la technique au service de l'aménagement du territoire, du ménagement de l'espace. Nous avons aujourd'hui une conception productive de la technique. Il s'agit de produire de plus en plus d'objets en utilisant de plus en plus d'énergie. Construire, ou plus exactement architecturer, a une autre vocation. Il s'agit de configurer l'espace, de lui donner des limites et par là même de dessiner des paysages et d'embellir le monde. La technique devient un art de la limite et non de l'intensification du réel. On comprend mieux dans ces conditions en quoi l'ornement, en tant qu'il est ici au service de l'harmonie linéaire, contribue à cet art de la limite qu'est l'architecture. La technique a pour vocation d'économiser la force et le temps des hommes. Cette définition conviendrait aussi bien à l'architecture humaniste et classique qu'aux techniques contemporaines. Mais il y a une grande différence entre ces deux paradigmes sur le sens de la force, sur le sens du temps et en bout du compte sur ce qu'on entend par économie, par économiser la force et le temps. Ce ne sont pas les mêmes notions de force, de temps et d'économie qui sont ici en jeu. L'économie de la force ne se définit pas en architecture comme une intensification des énergies physiques de la nature ou physiologiques de l'homme, mais au contraire comme une constance de l'agir à travers le temps. De même, l'économie du temps ne se définit pas comme une unité qui mesurerait la rentabilité des actions dans une sorte d'accélération continue de la production, mais au contraire comme une prolongation, une dilatation des instants qui assure aux hommes, comme l'affirme l'architecte et théoricien des Lumières Jacques-François Blondel, qui assure aux hommes la possession tranquille du monde. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur. Attendez, on n'a pas commencé. Pour cette belle conférence, je sais, vous avez pris un choix, c'est de commencer par nous montrer les monuments et après commencer à parler des encyclopédies, enfin des textes. Et oui, en effet, c'est pertinent. On s'attendait, bien entendu, à ce que vous commenciez par les traités.
C'est un voilà. Peu abstrait, hein, les traités. J'ai voulu.
Mais c'est bien parce qu'on a eu d'une part des exemples et d'autre part tout cet historique et cette ce travail aussi de compilation. C'est vraiment une très, très belle conférence, monsieur. Merci infiniment.
Je vous remercie de votre attention.
Avec votre très beau exposé, je suis très ému parce que je pense à la tragédie de Rome contemporaine et à la réussite de Paris. Dans ce sens, Haussmann, que vous savez bien que son mot, comme il l'indique lui-même, ça veut dire « homme, maison, Haussmann ». Il n'avait pas hésité à détruire les 30 rues pour construire son boulevard et détruire aussi sa maison en même temps. Mais en faisant ça, il a montré un courage et aussi une réussite qu'on en profite encore aujourd'hui. Et là, on peut comprendre les métros, on peut comprendre un tas de choses.
Exactement, exactement.
Et le contraire, alors là, je suis italien et ça me rend très triste, c'est qu'avec votre exposé, tout d'un coup, j'ai mieux compris une conférence que Federico Zeri avait faite il y a très longtemps et qu'il disait, dans son allocution, ah, la tragédie de Rome, c'est que quand on a transféré la capitale de l'Italie, de Turin à Rome, on a tué Rome.
Oui,
et on le comprend très bien, parce que les belles images qu'on a vues et les échanges de mots qui galbaient ces images que vous avez eues, on comprend comme au 400, c'est pas seulement Albert, mais beaucoup d'autres architectes et autres savants, ils avaient le souci d'avancer tout incorporant les ruines et ils réussissaient. Mais à partir de 1800, on a tout détruit. Et ça, c'est une grande, grande tragédie. On a beau dire Nervi et compagnie, ou même le pape Paul II, là, qui a construit sa piscine en béton sur sa terrasse, c'est vraiment quelque chose. Quand on voit ces réussites-là, on est triste. On est triste de penser qu'une ville comme Rome n'a pas su garder beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, moi, j'ai eu le bonheur de vivre 6 mois à la Villa Médici avec Balthus. Et j'ai fait 5 ans à Paris, au quartier latin, et je vais compter comme ça. Mais avec votre exposé, vraiment, j'ai compris aujourd'hui des choses qui étaient là, que je n'avais pas bien saisi, mais je l'ai bien saisi aujourd'hui avec votre travail.
Mais je vous remercie. Vous étiez architecte à la Villa Médicis ?
Non, sculpteur.
Ah, sculpteur. Oui, c'est vrai, j'aurais pu citer parmi les pâtisseries ou les quitcheries néoclassiques la fameuse machine à écrire, hein, le monument de Victor Emmanuel à Rome, qui montre bien la méconnaissance du néoclassicisme, hein, qui est bon. En même temps, j'ai essayé de montrer qu'il existe un néoclassicisme très savant et très raffiné, hein, bon, et dont Haussmann est d'une certaine façon aussi l'héritier. Alors c'est vrai, il y a un paradoxe, hein, la ville vitruvienne de référence, c'est Paris et c'est pas Rome, hein, bon, pour de très nombreuses raisons, hein, c'est paradoxal, hein.
Vous l'exprimez vraiment profondément bien.
Oui. Alors, pour de très nombreuses raisons qui mériteraient réellement de longues conférences, et parce que je pense, c'est tout le problème que l'Italie du 19e siècle a entretenu avec la modernité. C'est ça, je pense, c'est cette difficulté qu'a eu l'Italie du 19e siècle à construire un concept de modernité viable. Et je pense que, du coup, l'Italie a connu une modernité très offensive, parfois virtuose, hein, dans les années entre les deux guerres, hein, avec tout ce courant constructiviste, mais qui ne portait plus cette histoire-là. Alors que d'autres architectes avaient peut-être un rapport à cette histoire-là plus serein. Mais c'est encore une question aujourd'hui, hein. Le rapport que l'architecture contemporaine entretient avec son histoire, c'est quelque chose d'assez complexe.
Oui, c'est tout à fait d'actualité. Oui. On est en train de transformer Poitiers. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Je pense que si vous vous promenez dans Poitiers, vous allez justement le problème entre guillemets, c'est le fait qu'on refait un centre-ville. Et que c'est une ville qui n'a pas évolué, c'est une ville qui a une image médiévale.
Oui,
et comment
fort,
faire ça, dans une comment faire une ville nouvelle dans une ville médiévale? Et là, il y a un choc des cultures.
Oui, il faut avoir la force de ce type d'architecture, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a un projet architectonique, si vous voulez, architectonique, qui englobe l'ensemble du réel. C'est une vision du monde, c'est une vision de l'homme, de sa place à la fois dans l'espace et dans le temps. Et l'architecture est au service de cette inscription-là. Alors, nombre de grands architectes contemporains se posent cette question, mais il est sûr que l'horizon technique que nous connaissons rend difficile une inscription architecturale qui réponde à cette ambition. J'ai évoqué le problème des grands équipements, les problèmes d'échelle, qui est une question très importante hein, dans l'aménagement du territoire contemporain.
Il y a aussi deux images étonnantes. Les beaux châteaux de Vaux-le-Vicomte.
Ah oui, ça c'est magnifique. Alors,
là c'est magnifique parce que, comme vous l'avez souligné, c'est un jardin qui avance comme une scène de théâtre.
Oui.
Contrairement aux autres châteaux, elle nous invite et on entre dedans et on va vers la verticale de la façade.
Oui.
Ça c'est magnifique. Oui. Et en même temps, je regardais ça et puis je regardais Palladio et puis je me disais, ah, à part les problèmes mécaniques d'ingénieurs contemporains, je me disais que même Jean Nouvel, il n'avait rien inventé de nouveau. tout était là. Si on se promène sur le Gabriel, c'est nettement mieux que certaines maisons contemporaines qui, quand on est dedans, ils te mettent des trucs juste au milieu de la porte et qu'on ne voit plus rien.
Ce que j'ai essayé de montrer, je suis content que vous réagissiez de la sorte. J'ai essayé de mon exposé. Ne cherchez pas à créer comme ça des conflits entre l'architecture contemporaine et ce type d'architecture. Hein. J'ai essayé discrètement d'entretenir un dialogue. Le fait de poser, comme l'a fait Ange Gabriel, de poser deux pavillons pour tenir un espace immense, hein, comme ça, ça c'est un geste qui est aussi bien contemporain. C'est un geste architectural fondamental. Et aucune architecture ne peut prétendre se passer, faire l'économie de ce type de geste. Hein, voilà.
J'ai pensé, mais c'est vraiment pas voulu, parce que dans le cadre des conférences qu'on organise avec les écoles doctorales, on avait une conférence qui aurait été très très bien à deux voix, avec vous, deux heures bien sûr. C'est l'archéologie des métropoles du 18e au début du 20e avec Stéphane Van Damme. C'était pas...
En résonance.
En résonance, exactement. C'est très complémentaire, c'est vraiment intéressant.
Je vous remercie
merci, monsieur,
de votre patience et d'avoir
c'était passionnant,
essayé
vraiment
de pénétrer ce monde du temps et de l'espace.
Oui, c'est à vous qu'on dit merci, monsieur.
Merci.